7h, 10h, c'est Café Grégo sur News FM.
Allez, bienvenue à vous les amis, il est 9h pile, bienvenue si vous nous rejoignez sur cette émission, sur ce Café Grégo. Les amis, on est ensemble jusqu'à 10h, je vous en parle depuis ce matin. Demain aura lieu à la Belle Électrique le Grenoble Reggae Orchestra, la Belle envoie du gros. Quatrième édition pour ce gros concert à la Belle Électrique. Le gros, c'est le Grenoble Reggae Orchestra, créateur de jam organisé, qui va retracer un peu toute l'histoire du reggae, rendre hommage à cette musique qu'on aime tant. Et pour en parler avec nous, le créateur, l'initiateur de cette Grenoble, de ce Grenoble Reggae Orchestra, Stéphane Ploto est avec nous aujourd'hui. Salut Steph.
Yes man, ça va Greg?
Ça va très bien et toi?
Écoute, nickel, ça va, c'est pas trop tôt. Depuis que j'ai des gamins, 9h ça passe.
9h c'est bon, ça passe, c'est plus facile. Bienvenue, ouais, ça fait plaisir de te recevoir pour parler un peu de ce gros. Hein. On se connaît en dehors aussi, je participe au gros aussi. Et c'est un gros projet qui a vu le jour, il me semble, en 2011.
C'est ça.
Pour pas dire de bêtises. Écoute, on va parler avec toi de comment est né ce projet du Grenoble Reggae Orchestra. Donc, retour back in the days en 2011. Si tu veux bien nous en dire un peu plus.
Écoute, à l'époque, moi j'étais intermittent avec une chanteuse du coin qui s'appelle Jazia Satour, qui est toujours en activité. Et on a eu une résidence à la Bobine pendant une semaine. Ce qui permet, quand t'es en résidence, t'es toute la journée dans un lieu. Là-bas, il y a des gens qui travaillent, en plus des techniciens, sur la partie spectacle. Et du coup, en échangeant un petit peu avec les gens côté administration, je leur dis, mais il n'y a pas de jam à la Bobine. Ils me disent, non, on en avait fait un peu, mais ça marchait, il y avait des dysfonctionnements. Moi, étant fan de jam, j'ai fait pas mal de jam quand j'étais en apprentissage, on va dire. Je leur ai proposé d'en organiser une parce que pour moi, il y avait des défauts un petit peu dans les jams auxquels je participais. Et ils m'ont dit banco. Et c'était les 30 ans de la mort de Bob. Donc l'idée, c'était de faire que du Bob Marley. Moi dans mon réseau, il y avait un petit peu des gens dans le cadre du jazz qui jouaient des soufflants, des cuivres, trompettes, sax, etc. J'ai un peu des contacts avec des gens qui font du gospel. Et puis, les contacts, notamment avec les icônes de Jazia, qui connaissent très bien le reggae, et puis d'autres. Et donc, j'ai passé quelques coups de fil, quelques mails, pour être sûr d'avoir un petit peu quand même des gens, quoi. Et puis, j'ai préparé aussi un petit peu la playlist.
Ouais.
La playlist. Et puis, dès cette première édition, de mémoire, je me suis fait j'ai fait des parts et je les ai distribuées à tout le monde. Alors, des parts, c'est un bien gros mot. Hein. En gros, c'est les lignes de, ce qui fait l'os à moelle du reggae, c'est-à-dire les lignes de basse, les accords et la structure du morceau. Pour que tout le monde puisse s'intégrer facilement sans se prendre la tête.
Ouais. Voilà. S'intégrer easy et puis choper une part et dire ah ok vas-y,
voilà,
je peux me lancer sur ce morceau.
Et moi le premier d'ailleurs, c'est-à-dire que je sais plus combien il y avait de morceaux, il y avait 25-30 morceaux. Moi je sais que je suis incapable de mémoriser comme ça 30 morceaux sans faire de répète parce qu'il n'y avait pas de répète.
Ouais.
Et il se trouve que, alors pour la petite anecdote, je me souviens que quelques mois avant, peut-être 6 mois avant, on m'avait appelé, c'était le Gros Lectif. Alors c'est marrant parce qu'il y a une petite accointance au niveau du nom. Le Gros Lectif de Lyon, c'est un collectif de jazzman qui font plein de trucs.
Okay.
Et une de leurs activités, c'était de faire une fois par mois ce qu'ils appelaient un bal. Où en gros, tout ce collectif de jazzman prenait une playlist de musique populaire. C'était hyper large stylistiquement. Et puis ils faisaient un truc un peu populaire où les gens pouvaient venir danser, etc. Avec juste une répète l'après-midi. Et en fait, ils avaient fait un bal reggae, et ils n'avaient pas de clavier lyonnais reggae pour jouer, et le réseau a fait que c'est arrivé à mes oreilles, et du coup je m'étais tapé les grilles sur 20 morceaux, 20-30 morceaux, répète l'après-midi, et puis super concert, et je m'étais dit putain mais c'est trop bon. Le truc qui était qui quand même un petit peu difficile, c'est de se taper tous ces relevés là. Donc pour ma jam reggae, je m'étais dit on va diffuser ça, on va pas le garder pour soi, pour que les gens aient le moins d'efforts à faire pour revenir jouer en fait.
Je rappelle quand même que tu es pianiste, claviériste, il faut quand même le dire, parce que ça coulait de source pour nous, mais ouais. Voilà, quand même, relever des parts, faire les machins, tout ça et tout, on rappelle quand même que c'est ton métier, hein, c'est tout simplement, hein. Donc avec diverses formations aussi, donc là tu nous as emmené en 2011 en nous parlant des jams, en nous parlant du reggae, du jazz aussi, ouais. Mais voilà, parle-nous un petit peu de toi, dans quel univers t'évolues avec ton instrument.
Alors écoute, moi c'est pour faire un petit résumé, moi je suis pas du tout de l'école du conservatoire du classique. J'ai appris dans des magasins de musique parce que je voulais faire du Jean-Michel Jarre. Et donc dans les écoles de musique on pouvait pas faire de Jean-Michel Jarre. En gros, j'ai toujours été intéressé par le côté synthé, les sons, etc. Et donc j'ai appris un peu tout, les accords, etc. dans ce cadre-là, au lycée, groupe de reggae amateur. On jouait tous pas hyper bien, mais on avait un batteur qui jouait bien, mais que du reggae. Donc on s'est mis à faire du reggae, puis on aimait bien ça. On a fait pas mal, on a dû faire deux albums autoproduits, on a tenu, je sais pas, une dizaine d'années, on faisait des bonnes premières parties, etc. Donc ça m'a vachement formé sur le côté scène, etc. Et puis même, en fait, emmener un projet, c'était pas spécialement moi le leader, mais du coup, j'ai vu des gens. Des semblables, on va dire, qui suffisait de pour prendre les choses en main, c'était pas très compliqué, il fallait passer 2-3 coups de fil, envoyer 2-3 courriers, puis on avait des trucs, on pouvait obtenir des choses. Donc ça m'a bien formé aussi sur le do it yourself un peu, hein, le côté musique actu, où c'est pas le diplôme qui fait que ça marche, c'est que tu te sors les doigts entre guillemets pour faire les choses. Et puis après, en fait, moi j'ai fait des études d'informatique et en parallèle j'allais faire des jams, beaucoup de jams, parce que j'avais ce truc de, on a un groupe, on répète 3 quarts d'heure toutes les semaines, on répète notre set de 3 quarts d'heure toutes les semaines, ouais. Pour assurer les concerts, et en fait ça me commençait à me lasser un peu, j'avais envie de m'exprimer, on va dire, ouais. Et c'était pas le cadre, et du coup les jams pour ça c'était hyper bien, parce que c'était gros lâchage.
Grosse communication en musique.
Alors c'est là que tu te formes pour écouter les autres, faire en sorte d'arriver à faire quelque chose d'à peu près bien, malgré contre vents et marées. Et puis aussi c'était une super, moi j'étais hyper timide, un peu asocial et tout, donc c'était un moyen aussi de rencontrer des gens. Et d'ailleurs il y a beaucoup de gens du gros que j'ai rencontrés à cette période-là. Mais tu vois, c'est hyper marrant parce que en vérité, je l'ai rencontré sur scène, mais j'étais tellement timide que je leur parlais pas trop, ouais. On se parlait pas trop en dehors de scène. Et mais c'était un super bon souvenir de toute cette période-là, à faire des jams, etc. Et donc j'ai fait mes études d'informatique et en parallèle, je me suis mis à faire de plus en plus de zik, à reprendre des cours et puis à voir des gens. Dans mes études d'informatique, il y a des gens qui ont bifurqué, qui sont mis à faire que de la zik.
Ouais.
Ça m'a fait hyper envie. Et du coup, dès que j'ai fini mes études d'info, je suis allé au conservatoire. Mais j'avais déjà un très bon bagage, en fait.
Une pratique.
J'avais repris aussi des cours avec un gars hyper qualifié qui s'appelle Pascal Perrier. Mais c'était un petit peu en cours particulier, etc. Mmh. Et puis, vu que je voulais me professionnaliser, voilà, je suis bien candide aussi. Donc, faire de la musique, il y a des diplômes qui existent, et ben allons-y. Et puis surtout, je voyais mes potes d'info qui avaient bifurqué, qui ont pris un level de dingue. Je me suis dit, le conservatoire, c'est pas si mal que ça, en fait. Et voilà, donc je me suis lancé à ce moment-là, je sais plus, donc j'avais quelque chose comme 25 ans. Le conservatoire, et puis quand j'ai fait le conservatoire, à côté de ça, je me suis mis à développer de plus en plus mes activités dans les groupes, donc notamment le big band, lui qui est l'usine à jazz, que t'as fait un projet aussi avec ce big band là.
Tout à fait.
Moi c'est un big band que j'ai arrêté l'année dernière, mais j'y ai passé 18 ans.
Ah ouais.
Et typiquement, tu vois, le big band pour moi c'était un contexte où il fallait que je lise de la musique sur des parts. Parce que sinon, tous les autres groupes que j'avais, il n'y avait pas de part. Donc tous ces trucs de solfège, etc., qu'on voit au conservatoire, ça me servait assez peu, finalement. Et en fait, quand tu apprends des choses qui ne te servent pas, tu ne les développes pas. Donc là, c'était... tous mes projets musicaux, fallait qu'il y ait un intérêt. Le big band, c'était de lire de la musique. Et par ailleurs, j'ai fait plein de rencontres et appris plein de choses aussi, en plus d'améliorer ma lecture.
Donc voilà, donc après du coup divers projets entre le jazz, donc tu le disais, l'usine à jazz,
ouais.
Donc le reggae, il y a aussi un groupe qui s'appelle Scartet, très très récent quand même ce groupe aussi, cette formation.
Ouais, en fait moi tu sais, on m'a toujours appelé, en fait,
ouais.
Justement vu que je sors pas mal, etc., que je suis assez ouvert d'esprit et que j'ai un peu cette double casquette de faire des jams, jouer des musiques actuelles, on va dire, et puis de savoir quand même lire un peu des parts et tout, bah, y a des gens que ça intéresse. Le big band, c'est ultra formateur aussi, hein, d'ailleurs, pour ça. Et y a des gens qui sont mis à m'appeler pour... Il y a eu Jazz à sa tour, et puis à l'époque aussi j'ai fait un petit peu d'intermittence. Il y a eu une compagnie de danse contemporaine qui m'avait appelé suite à un projet où j'avais fait un ciné-concert sur Métropolis, truc de 2h15, que j'avais joué dans le cadre du festival de jazz, où j'étais tout seul et où il y avait aussi un petit peu de MAO, un petit peu de musique électronique, un petit peu influence électronique. Et donc ça, il y a une compagnie de danse qui m'a appelé pour faire ce type de taf, c'est-à-dire faire de la prod, mais pouvoir jouer aussi en plus par-dessus, etc. Donc c'était un gros truc, une compagnie de danse sur Lyon. Voilà, et donc Scartet, effectivement, c'est un peu... Après le gros, alors le gros c'est mon projet, mais c'est un truc, comment dire, c'est pas un groupe de musique, c'est un projet un peu plus méta, je sais pas comment dire, un peu plus ambitieux dans une certaine mesure. Et en fait, après toutes ces années, avoir fait tout un tas de projets, puis avoir aidé pas mal de gens dans leurs projets artistiques, et ben Scartet, c'est un peu le premier projet artistique que j'ai envie de faire, un truc que j'ai toujours eu envie de faire en fait, et qui est né un peu grâce entre guillemets au Covid. Pourquoi ? Parce que y a eu une période, tu sais, où les gens ils pouvaient plus, les intermittents pouvaient plus jouer. Enfin, il y avait plus de concerts. Voilà. Ouais. Par contre, on avait le droit de travailler, et du coup, j'avais un certain nombre de potes intermittents qui pouvaient répéter mais pas jouer. Donc, ils étaient du très dispo, alors que d'habitude ils ne le sont pas du tout. Et à très dispo, et du coup, c'est des potes qui aiment bien le reggae, qui connaissent aussi un petit peu le jazz, qui sont hyper hyper bons instrumentistes. Et du coup, on s'est donné rendez-vous un jour à 4. Et puis, je sais pas, je pense que t'as déjà connu ça, quoi. Ce truc où tu passes 10 minutes à jouer et tu dis yes, c'est excellent, faut continuer.
C'est bon.
Voilà, et donc, Scartet, c'est vraiment tout jeune, on n'a pas encore trop démarché, etc. Mais c'est un truc qu'on a envie de développer où c'est vraiment le plaisir qui prime, quoi. Hein. Ouais. Jazz reggae instrumental, franchement, c'est pas le truc qui va nous faire jouer sur des grosses scènes et tout, mais c'est un truc hyper plaisant en tant qu'instrumentiste quand on a passé beaucoup d'heures derrière son instrument, de se retrouver un petit peu à enfin jouer des thèmes, à enfin s'exprimer, on va dire, avec des gens avec qui on s'entend, qui ont la culture reggae. C'est assez précieux d'ailleurs. On a un contrebassiste qui connaît le reggae, qui joue de la contrebasse. Franchement, on voit pas ça à tous les coins de rue. Et pour tous les autres instrumentistes, c'est un petit peu pareil de pouvoir aller dans les deux univers. C'est quand même assez précieux.
Yes, le Grenoble Reggae Orchestra, c'est demain, les amis, du côté de la Belle Électrique. On se fait une petite pause musicale, tiens, Steph, yes. Si t'es chaud, on va s'écouter un petit Derrick Harriott, si ça te botte.
Carrément.
Un petit Brown Baby. Ça fait partie des titres qu'on va retrouver sur la jam de demain. On en reparle juste après, les amis, restez avec nous. On se fait une petite pause avec Derrick Harriott et Brown Baby. Makes no difference who's right is what's right. Eric Carriot avec Brown Baby, un titre que vous allez retrouver demain du côté de la Belle Électrique pour la Grenoble Reggae Orchestra. La jam organisée et créée par Stéphane Plotot, voilà, pianiste claviériste qui est avec nous donc ce matin pour en parler, les amis. Donc on va parler un peu des autres éditions, parce que c'est ce qu'on se disait hors antenne, Steph. C'est vrai que à cette époque 2011-2012 où est créé le Grenoble Reggae Orchestra, ça tourne surtout autour de Bob Marley, essentiellement, puisque tu le disais, créé pour les 30 ans de la mort de Bob Marley. Et mais donc après, ça s'est ouvert à tout un répertoire reggae. Et là, tout d'un coup, plein de gens qui commencent à s'inscrire, les inscriptions qui s'ouvrent. Et en fait, le reggae est encore bien vivant à Grenoble et dans toutes les pratiques d'instruments. Parce que moi, quand je suis arrivé, il y avait un monde fou.
Ah ouais, carrément, c'était quand même, petite parenthèse sur cette première édition. Moi, je pense que c'est un des meilleurs concerts de ma life.
Ouais.
Concrètement, non mais vraiment, c'est-à-dire que peut-être pas qualitativement, ça restait quand même une jam, mais ouais. Alors humainement, je m'en souviendrai toute ma vie de ce concert. Et donc ok, j'étais à l'initiative, mais en fait, c'est quand même beaucoup de boulot. Et dès le lendemain, j'ai François et Maëva, donc deux personnes qui sont dans le bureau de l'asso, qui m'appellent et qui me disent justement, on crée une asso, quand c'est qu'on refait, etc. On t'aide.
François, trompettiste à l'usine à jazz.
Voilà,
François Carrel,
également Maëva, président.
Ouais, et Maëva, chef de chœur au Grenoble Gospel Singer.
Exactement. Et alors, sachant que c'est deux profils de personnes qui sont pas, ils sont pas intermittents, mais ils sont passionnés, amateurs éclairés, on va dire, de musique. Et du coup, qui m'aide à ce qui est d'autres éditions. Et tout ça, main dans la main, entre guillemets, avec la bobine. Et donc, effectivement, ça avait hyper bien marché la première. Et donc, après, tu te dis, pourquoi ça a marché? Est-ce que c'est Bob Marley? Est-ce que c'était la date qu'on avait choisie? On se pose des questions. Et puis, du coup, sur les éditions d'après, on fait des petites modifs pour essayer d'améliorer le truc, tu vois. Et en fait, les gens répondent présents. Alors, faut savoir que les gens, tu dis, effectivement, il y a plein de gens, c'est un peu les enfants de tous les groupes de reggae des années 80, 90. Faut dire, moi, j'ai grandi avec Sinsé, avec Trio, avec tous ces groupes-là. Et donc, c'est les groupes qu'on allait voir. Et effectivement, il y a plein de gens qui ont été influencés par ça. Il y a plein de gens aussi qui veulent tout simplement jouer. Tu disais le reggae, oui, le reggae, mais il y a aussi plein de gens qui ont découvert le reggae avec le gros, en fait. Et des gens qui aiment la musique, qui veulent jouer. Et là, on leur dit, écoute, tu t'inscris, tu peux chanter ou jouer sur ce morceau. Et oui, c'est parti, j'y connais rien en reggae, c'est pas grave. Voilà, donc il y a aussi cette dimension-là de, en vérité, moi, en tant qu'enseignant, je le vois, dans les écoles, on va favoriser plutôt les inscriptions des enfants. Le rythme est sur l'année scolaire, etc. Il y a quelque chose de très scolaire dans les écoles de musique. Là, d'un coup, on propose un truc qui n'a rien à voir. On propose un truc où c'est une soirée, où tu sais à l'avance que tu vas jouer. Et donc, tous les gens qui savent déjà un petit peu jouer et qui ont envie de partager, mais qui n'ont pas forcément le temps pour monter un groupe, ou qui n'ont pas forcément le temps pour s'inscrire dans, ou les moyens pour s'inscrire dans une école à l'année, là, d'un coup, ils ont une proposition qui est rare, on va dire. Et en fait, sur ce point-là, il y a une demande de fou. Il y a une demande de fou. Et à mon avis, tu parles de reggae, mais je pense que si on faisait la même chose en rock ou en chanson, ou dans d'autres styles, à mon avis, ça marcherait. Et probablement avec des musiciens en commun. C'est-à-dire que je pense que le reggae est important pour un certain nombre de musiciens. Mais je pense que c'est pour qu'un certain d'autres musiciens, ça va être le côté de faire ensemble et le côté de ne pas avoir un investissement de dingue sur toute une année ou voilà. Et l'autre truc aussi, c'est les scènes, c'est-à-dire que la bobine, c'était super cool. L'accueil, enfin, au début on jouait dans la salle du bar, mais assez vite on allait dans la grande salle. C'est quand même cool de jouer sur une grande salle. Et depuis la Belle Électrique, là carrément, on voit des gens qui sont intéressés pour tout simplement venir jouer sur la grande scène de la Belle pour jouer des tubes de reggae. Donc il y a des gens qui viennent de loin. Je me souviens que on a eu des gens qui venaient d'Annecy, des intermittents qui venaient d'Annecy parce que jouer du reggae à 15 sur une belle scène, etc. Quand t'es intermittent, ça arrive pas si souvent que ça, quoi.
Jouer du reggae à 15 sur une grande scène. Alors là, quand il vous dit ça, ça a l'air de rien, mais je vous dis que ça fait des belles scènes et ça fait vraiment du gros show. Et surtout là, c'est une centaine d'inscrits en temps en tant que musicien, chanteur, choriste, ça fait au moins Ouais, ça fait 100 personnes qui vont se relayer sur scène. À chaque fois, ça change d'équipe. Il y en a un qui jouait du saxo sur un morceau. Ben, l'occasion se présente dans cette jam. Ben, tiens, je voulais jouer de la percu. Tiens, je fais un peu de clavier. Je vais m'essayer. Grâce à toutes ces partitions relevées, justement, qu'on peut trouver quand on s'inscrit en amont. Et ça, quand même, c'est très riche, je trouve, d'aller voir un concert qui retrace un peu tout un répertoire d'une musique forte et où il y a autant de gens qui vont se succéder sur scène. Ça, j'imagine que en termes d'orga, il faut être serein.
Ouais, carrément. Bah alors, justement,
faut être calme.
Ça, c'est aussi le truc de ma formation initiale qui est en informatique. Je fais une petite parenthèse parce que en fait, c'est là-dessus que j'ai passé aussi beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu plusieurs éditions à la bobine et tout était fait par mail. Les gens m'envoyaient par mail, je veux jouer ça, etc. Voilà. Et puis du coup, moi, j'avais une petite page web, vraiment fait comme un document Word, quoi, où je mettais ce qui se passait. Et tous les jours, je relevais ma boîte mail, je lisais, etc. Donc autant te dire, le temps passé là-dessus, c'était un truc de dingue. Au début, on n'était pas 100, hein. Au début, on était 30, puis c'est passé 40, 50, etc. Et je sais pas si tu te souviens, mais au début, il y avait aussi beaucoup de créneaux libres. C'est-à-dire que moi, je faisais en sorte qu'il y ait un chanteur obligé. Je faisais en sorte qu'il y ait des icos qui jouent assez bien, une équipe qui joue assez bien sur scène obligée. Et puis en fait, tout le reste, il y avait des gens qui disaient qu'ils voulaient s'inscrire, etc. Mais du coup, il y avait plein de créneaux, des batteurs, on savait pas qui ça allait être, etc. Et du coup, on avait un tableau noir avec des gens qui venaient s'inscrire sur le tableau, etc. Avec quelqu'un qui gérait un petit peu ça. Donc il y avait quand même une dimension encore un peu plus aléatoire. Et en fait, moi, ça me prenait tellement de temps de gérer tout la partie mail que, au bout d'un moment, et puis aussi voyant que je faisais ça dans les écoles de musique, c'est-à-dire que dans les écoles de musique, moi, j'apprends, je fais pas travailler à mes élèves des morceaux de piano où ils peuvent jouer tout seuls. Je leur apprends à accompagner, je leur apprends à jouer en groupe. Et du coup, à chaque fois que je fais une audition dans une école, je dois me débrouiller pour qu'il y ait une chanteuse, qu'il y ait un percussionniste, etc. Et donc, je réunis des gens de manière ponctuelle pour qu'ils jouent quelque chose. Et en fait, c'est exactement ce que je fais aussi dans le gros.
Ouais.
Et en fait, c'est beaucoup d'échanges de mails, beaucoup d'énergie, un peu des fois mal utilisée. Et du coup, je me suis dit, allez, je vais sur le site du Zéro et je reprends mes cours d'informatique. Et c'est parti, on fait un site qui va gérer ça. Parce que, déjà, ça va me permettre de faire plus facilement les jams du gros. Et puis, dans un deuxième temps, qui n'est pas encore arrivé, je me dis que ce site pourra être utilisé par d'autres gens pour faire d'autres jams dans d'autres styles, etc., etc. Donc je me suis mis à informatiser le truc, je crois, en 2016, avec une page, une base de données, etc. Et donc ça fluidifie à fond tout ce qui se passe. Aujourd'hui, les gens, c'est pas beaucoup plus compliqué que ce que fait des Google Documents, etc. Mais en fait, tout est organisé pour que ce soit pour la jam. Donc on a les parts sous le coude, on a le son sous le coude, on voit qui s'inscrit où, etc. Donc il y a tout un tas d'outils. Et surtout, pour moi aussi, en tant qu'organisateur, j'ai des stats sur, par exemple, le nombre de les morceaux, dans quelle tonalité, la vitesse, si on les a beaucoup joués dans les jams, etc. Pour que ce soit plus facile à organiser. Donc ça a l'air de rien. Tant qu'on n'est pas confronté au truc, on se rend pas compte du temps que ça peut prendre.
Ouais.
Notamment sur les affectations, il y a une phase où à un moment donné, tous les gens s'inscrivent et puis il faut dire ok, qui joue quoi. On n'a pas envie de favoriser trop des personnes et pénaliser celles qu'on connaît pas, parce qu'il y a des pseudos, des gens qu'on connaît pas, on sait pas, on se dit
Et puis c'est le but en fait c'est une jam organisée, d'accord, mais justement c'est pour que les équipes changent, quoi, et que tu peux pas.
Alors exactement, ouais, moi j'essaie d'éviter ce truc de. On a eu ça un petit peu à une période, des gens qui voulaient je veux jouer avec un tel. À chaque fois, moi j'ai pour ligne de conduite d'essayer de faire en sorte que les musiciens se mêlent le plus possible.
Ouais. Donc demain, ce sera à partir de 19h ouverture des portes. Loupez pas, parce que ça va commencer à 20h. Il y a quoi ? Il y a une trentaine de morceaux, plus d'une trentaine de morceaux ?
Il y a 30 morceaux. Alors, faut savoir qu'au fur et à mesure, on a intégré, au début, c'était que du bob, on a intégré plein d'autres styles et on voit que ça marche toujours autant. Alors, c'est sûr que le reggae est un peu plus moderne, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a de la prod, il y a des sons, etc. Mais on essaye progressivement de le faire malgré tout. 30 titres avec, On les a classés par ordre chronologique. J'ai fait ça pour toi, Greg, parce que Greg va être notre MC. Merci à toi, d'ailleurs.
Mais avec grand plaisir.
Vrai que j'aime bien ce truc aussi de l'histoire un petit peu du reggae. D'ailleurs, Brand Baby qu'on vient d'écouter, c'est en vérité un vieux titre de soul ou même de... Je sais plus. Oui, si, c'est ça, de soul, c'est Brand Baby. Ouais. Donc il y a aussi ce truc-là de moi en prépa. Enfin, pour les gens qui se penchent un petit peu sur les titres, qui vont gratter un petit peu plus loin que juste jouer le morceau. En fait, plus ça va, plus on a plein de trucs hyper intéressants liés au reggae sur la musique de manière générale, quoi.
On va partir des années 60 jusqu'aux années aujourd'hui, quoi.
2022, en fait. Ouais. On a des titres qu'on reprend qui sont sortis l'année dernière.
Un grand panel de l'histoire du reggae, évidemment pas tout, sinon la soirée durerait une semaine, mais ça va être un joyeux...
Un jour peut-être.
On sera la Reggae Week pour de vrai. Du coup, demain, c'est pour la première fois, c'est payant aussi, et ça aussi, il faut le dire, parce que c'est pour soutenir l'association qui a créé le gros, parce que c'est beaucoup d'investissement de votre part aussi, et donc c'est bien aussi d'avoir un petit soutien pour la première fois. Donc payer 8 € en prévente, c'est rien du tout par rapport à tout ce que vous allez voir et la durée du concert. Mais c'est bien pour soutenir l'association, parce qu'il faut dire que voilà, maintenant vous êtes beaucoup à vous occuper, les partitions, les inscriptions, gérer les gens, les répétitions un peu en amont.
Voilà, il y a un certain nombre de répètes alors qu'ils sont obligatoires entre guillemets pour les choristes, parce que c'est quand même compliqué de trouver sa note, même avec des partitions, etc. Plus qu'avec les autres instruments. Et donc il y a 3 ou 4 répétitions obligatoires pour les choristes. Il y a une répète générale qui est facultative pour tous les autres, mais ça permet de se rencontrer, ça permet de tester des choses, etc. Et donc effectivement, l'encadrement de ces répétitions là, de faire en sorte que ça puisse jouer, en fait, ça demande de bloquer des dates dans des plannings de gens qui sont de confiance, et du coup c'est sûr que ça coûte un peu des sous. Il y a aussi le fait de là, qu'est-ce qui est dans ce qui coûte de l'argent aussi, il y a la SACEM, il y a aussi on essaie de faire en sorte progressivement, c'était pas le cas au début, mais maintenant on essaie de faire en sorte que tous les gens en coulisses puissent manger un repas. Ça nous paraît normal, donc il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte, en sachant qu'en fait il y a aussi beaucoup de bénévoles. Alors c'est fantastique de pouvoir compter sur tous ces bénévoles, sur toutes ces aides, mais ça demande aussi de la coordination, et quand on se met à coordonner, le côté bénévole il est plus délicat, on va dire, hein. Donc il y a toujours tout ce truc de, comme dans tous les projets qui commencent à prendre de l'ampleur, il faut qu'on puisse avoir des bases solides pour pouvoir garder en qualité, etc. Toi-même, tu sais.
Moi-même, je sais. Nous-mêmes, nous sachons, comme on dit. demain, c'est rendez-vous, les amis, à 19h, et allez sur le site de la Belle, sur la billetterie, pour le gros. 8 balles en pré-vente. Une grande soirée nous attend. Donc, plus de 2 heures de reggae, les amis, avec plein de gens. Vous allez voir, c'est une ambiance très, très chaleureuse. Parce que c'est ça aussi que j'aime bien noter, moi, dans le gros, c'est qu'on vient pas voir une formation, et du coup même dans l'accueil en tant que public, il se passe toujours des choses, des surprises, des belles surprises, de se dire ah ouais, là on sent que lui c'était sa première, mais tu vois c'est touchant aussi, tu vois. Et ça c'est énorme à voir, parce que en le recevant en tant que public, tu t'applaudis comme si c'était une jam que tout le monde a donné, ça, on dirait un groupe qui s'est déjà formé, mais non les amis, des fois il y en a qui viennent pour la première fois, et c'est la première fois qu'ils sont dans une section cuivre, et il y en a d'autres premières fois qui font des chœurs, et plein d'artistes qui soient artistes lead ou choristes, ou sur le côté, ou musiciens, et ben vont s'essayer aussi, et c'est beau à voir en fait tout ça, parce que ça participe à une grande ambiance sur scène et dans le public, en fait.
Ah ouais, carrément, mais moi c'est pour ça que je fais ça, hein. T'as des images, parce que donc il y a des gens, effectivement c'est leur première scène, ou c'est la première fois qu'ils jouent en groupe, etc. Mais il y a aussi des gens où c'est l'inverse, qui sont extrêmement expérimentés et qui viennent parce que en fait quand t'es intermittent, en vérité tu passes pas tant que ça, enfin tu transmets ta musique et à travers l'écoute du public, mais en fait après un peu moins quoi. Et donc moi j'ai le souvenir d'images où il y avait à l'époque, il était à la technique, à la bobine, c'était le batteur de Sinsé, mais les gens le savaient pas forcément, et qui montrait à un gamin comment bien tenir sa baguette pendant les balances et tout. Bon bah cette image là elle est monstrueuse quoi en fait. Et donc c'est vrai qu'il y a cette dimension de la transmission aussi qui est hyper importante. Et quand on voit ça en tant que public, il y a un côté théâtral en fait. Il y a une pièce de théâtre qui se joue sur comment les gens se comportent, comment ils se passent le poste, voilà, d'un musicien à l'autre, etc. C'est hyper, c'est génial à voir. Enfin, moi, je sais que dans les jams, j'ai toujours adoré ce truc-là, quoi. C'est-à-dire que même quand ça joue pas, en fait, il y a des trucs à voir. Vrai que tout le monde est là pour le bon esprit. C'est sûr, on a envie de bien jouer, mais on a envie surtout de passer un bon moment. Donc c'est toi tout à l'heure, tu parlais de concert. Ouais, c'est en fait, c'est ni vraiment une jam, ni vraiment un concert. C'est un peu un ovni culturel, on va dire, à mon sens. Hein. Et c'est sûr qu'il y a, ouais, pour le public, c'est sûr que bah voilà, ça va pas être le groupe rodé qui a bossé de dingue, etc. Mais du coup, il y a un truc différent qui fait que c'est une ambiance particulière et généralement hyper chaleureuse.
Ouais. Ouais. Puis justement, c'est ce qui fait l'intérêt d'une telle jam organisée. La belle envoie du gros, c'est demain, les amis, à partir de 19h, Grenoble Reggae Orchestra. Nous étions avec Stéphane Ploto, créateur de cette jam organisée. Rendez-vous demain, billetterie, 8 balles, 10 balles sur place. Donc, loupez pas ça. On va se quitter avec un dernier titre,
yes.
Stéphane. I only have Eyes for You, c'est Night Owls, et pareil, plein de versions encore de cette chanson qui existe.
Depuis, ouais, un vieux titre presque de pas de Broadway, mais pas loin, ouais, qui a été chanté, je crois, par Sinatra, etc. Ouais.
Yes.
Repris en reggae. Merci en tout cas, Greg.
Merci beaucoup, Stéphane, et on rappelle que si guettez un peu, si ça vous a parlé, si ça vous intéresse de venir un peu, vous essayez pour les prochaines gros Grenoble Reggae Orchestra, ouais. Il y a le site internet.
Ah oui, ça c'est souvent, on nous dit, ouais, j'aurais bien voulu jouer, oui. Mais machin, en fait, inscrivez-vous sur le site, et en fait, quand vous êtes sur le site, quand il y a une jam qui se prépare, vous êtes au courant avant tout le monde, parce qu'il y a de la demande, et si vous arrivez un petit peu tard, et ben toutes les places sont prises, donc en vous inscrivant sur le site, vous avez toutes les infos en avant-première.
Voilà, donc inscrivez-vous, Grenoble Reggae Orchestra, les amis, vous tapez ça sur vos moteurs de recherche, ça va tomber direct. Merci beaucoup encore, Stéphane.
Yes, merci à toi.
Et on se dit à demain, du coup. Hein.
Eh bah ouais, à demain, on va répéter ce soir encore un peu.
Allez, bon.
Allez, ciao.
Ciao.
I'm the last one on the soul.
la radio qui cultive de bonnes ondes à Grenoble.